Bien, mesdames, messieurs, quelle énergie. Nous reprenons donc. Deuxième heure, dernière heure. La dernière heure, notre dernière heure est arrivée. En examinant la question du sujet des passions aux confins de l'anthropologie et de la christologie, ou plutôt à leur intersection, j'ai ouvert deux dossiers qui, sans être situés aux deux bornes extrêmes de la durée longue sur laquelle travaille nécessairement l'archéologie du sujet, n'en sont pas moins séparés quand même par 1000 ans, le temps qu'on attribue en général au Moyen Âge. Je veux parler de la querelle du monothélisme à Byzance au VIe siècle et de la controverse eucharistique entre luthériens réformés et catholiques au XVIe. Un théologien dirait du IIIe concile de Constantinople jusqu'au concile de Trente. Un résumé de cours plus tatillon préciserait du Pséphos de Sergius Ier aux Actas du colloque de Montbéliard, en somme de 633 à 1586, avec, pour souffler un peu, un intermède médiéval, lui-même gros, de quelques 200 ans, les 200 ans qui séparent les sentences de Pierre Lombard de l'exemplar d'Heinrich Seuse, dit Suso, Zus le Doux. Oui, Suso, c'est Monsieur le Doux, hein, je le précise. Depuis les premières séances, il aura été facile de voir ce que la christologie devait conceptuellement à l'anthropologie philosophique, la relation de l'âme et du corps étant le paradigme de l'union des deux natures, divine et humaine, du Christ. Mais en sens inverse, direz-vous, quelles sont, quelles ont été, quelles pouvaient bien être, dans ce que nous avons toujours trop rapidement évoqué, quels sont les apports de la christologie à l'anthropologie? L'élément central, je réponds, est l'introduction de l'union hypostatique en anthropologie. Autrement dit, l'intervention du sujet, de l'hypostase, hypostasis, dans la relation âme-corps, et même dans la relation esprit-âme-corps, cette division trichotomique de l'homme qui est le bien commun de la christologie et de l'anthropologie antico-médiévale, depuis les polémiques d'Augustin contre l'apollinarisme, intervention donc qui rend possible l'émergence de la personne comme sujet, dont non seulement les actions, mais aussi les passions sont susceptibles, le grand mot est lâché, d'imputation. Sur le fond d'une réhabilitation de l'hypostase contre la réduction de l'histoire de la théologie à un savoir mineur ou subalterne, et enfin contre ce que certains appellent la colonisation du passé, tout particulièrement la colonisation du Moyen Âge, j'ai essayé durant ces séances, en filant la question du sujet d'imputation, autrement dit du sujet éthique, ouverte précisément dans mes trois livres, de marquer quelques étapes de ce que j'appellerais l'allongement christologique du questionnaire anthropologique. J'essaie de le montrer ici d'année en année, comme j'ai essayé de le montrer ailleurs depuis, hélas, plus de 30 ans. La théologie a été longtemps une grande pourvoyeuse de problèmes, exploitant et mettant en crise ce que Étienne Gilson, avait appelé d'une formule heureuse, qualifiant à ses yeux le thomisme, le triomphe de la philosophie dans la théologie, et les faisant évoluer du même pas, même si la chose n'était pas toujours immédiatement perçue. Je partage cette vision, mais je ne la limite pas au seul thomisme, je l'attribue à toute la théologie, y compris là où interviennent les tendances opposées à ce que Gilson voyait comme caractéristique du thomisme, autrement dit, le triomphe de la théologie sur la philosophie, au lieu du triomphe de la théologie dans la philosophie ou de la philosophie dans la théologie, et leur séparation débouchant, le cas échéant, sur un séparatisme. L'anthropologie n'est jamais prise en otage par la christologie. Elle est, au contraire, lancée sur des pistes qu'elle n'eût jamais frayées autrement. Les questionnaires, les complexes questions-réponses christologiques ont fonctionné, je le crois, comme de véritables protocoles d'investigation anthropologique. Nous en avons eu un exemple difficile mais fructueux avec l'épisode néo-testamentaire du refus de la coupe. En suivant la question du problème de Gethsémani et de la prière d'agonie depuis Sergius jusqu'à Maxime le Confesseur, nous avons vu se mettre en place un certain nombre de thèses faisant intervenir des notions nouvelles, principalement chez Maxime le Confesseur. L'introduction de la télésis, considérée par certains comme inconnue d'Aristote, et celle du vouloir dit gnomique, assurément caractéristique, nul là ne le conteste, de la théologie chrétienne hellénophone. Si la première introduction, celle de la télésis, a eu d'emblée un intérêt évident, puisqu'elle entraînait une refonte de la théorie antique de la volonté, dont l'aboutissement est au 7e siècle, le quadrangle damascénien de l'action, energeia, de l'actif, energetikon, de l'acté, energima, et de l'actant, energon, avec sa théorie de l'usage, chrésis, et de l'usager, ok, krémenos, d'action et de volonté, la seconde introduction, la seconde innovation, celle du vouloir gnomique, qui lui est liée, comme on l'a dit, n'a pas pour autant révélé d'emblée sa portée. Nous n'avons pas vu immédiatement ce que l'absence de vouloir gnomique dans le Christ signifiait. Quel contre-coup théorique cela pouvait bien produire dans le domaine de l'anthropologie. Et pour cause. Cette absence et la théorie elle-même du vouloir gnomique fonctionnait comme l'arbre qui cache la forêt. Par sa technicité, son appellation déroutante, gnomée, l'extraordinaire complexité du réseau dans lequel elle s'insère sur la durée longue, et enfin son aspect grec, ou si vous préférez, oriental, par tout cela, elle masquait, cette théorie du vouloir gnomique, le principal et premier apport du dossier monothéliste à l'anthropologie philosophique. Elle masquait son principal et premier effet retour ou feedback conceptuel. Elle masquait son premier ferment de nouveauté potentielle. Lequel ? Eh bien ceci, le statut des mouvements de la chair chez Sergius de Constantinople lui-même, avec le rôle que ce statut leur confère dans la solution qu'il apportait au problème de Gethsémani, mais au-delà de Sergius, tout au long du Moyen-Âge, et même du long Moyen-Âge, une fois reconnue l'ampleur de sa charge anthropologique. Nous avons souligné que la solution de Sergius n'était pas considérée comme satisfaisante par la tradition ultérieure, notamment maximienne, car elle résolvait le problème de l'apparent conflit des volontés dans le Christ en le supprimant, en lui ôtant toute dimension éthique, en le situant à un niveau inframoral, en ne laissant à l'angoisse et au refus de la coupe que le terrain ou le terreau de mouvement dit incontrôlable de la chair. On le sait, la chair est faible. On pouvait s'arrêter là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire. Revenons au problème de Gethsémani. La solution de Sergius paraît fatale au niveau anthropologique. Elle semble exclure tout conflit de volonté en l'homme, ce qui est contraire à notre expérience. Comment sauver les phénomènes en psychologie ? Nous avions vu l'an dernier la solution d'Augustin, inscrire le « nouloir », autrement dit le « vouloir que ne pas », au cœur de l'acte volontaire, défini cet acte volontaire comme une contradiction permanente entre un vouloir dans le nouloir et un nouloir dans le vouloir, et non pas seulement par la présence ou l'absence du vouloir. Distinguer les usages augustiniens post-augustinien, abélardien, scotiste de Wolo, Nolo et non-Wolo, c'était, et cela reste, la voie royale du conflit de volonté dans la tradition issue de la théologie antico-médiévale. C'est même, pardonnez le jeu de mots, la voie, vox, de la conscience. Ajoutée à la tension du wolo et du nolo, du vouloir et du nouloir, celle du wolo et du possum, ce que nous n'avons pu faire ni l'an dernier ni cette année. Ajoutée, dis-je, la tension du vouloir et du pouvoir à celle du vouloir et du nouloir, vous avez en effet la conscience, selon Augustin, ce qui naît d'une double expérience qui, en un sens, s'articule à chaque instant, en chaque existence, celle de la tension interne au vouloir entre vouloir et nouloir et l'expérience de la résistance au vouloir qu'opposent le pouvoir, le non-pouvoir et l'impouvoir. Double choc qui distingue l'intérieur de l'extérieur, l'intus et le foris, par le jeu de l'attente et de la frustration, entamé, pour ainsi dire, au premier vagissement. Volebam et non poteram, dit après coup l'infans Augustin, rappelant l'impuissance langagière du nourrisson qu'il avait été. Je voulais et je ne pouvais pas. L'écart, faute de mots, entre le vouloir et le pouvoir, entre la volonté de l'homme intérieur et la non-réponse du monde à ses désirs. La non-réponse, je cite, des grandes personnes qui ne se soumettent pas. La non-réponse de ces personnes libres qui, je cite, ne se font pas nos esclaves et dont, je cite encore, on se venge en pleurant. Voilà, en l'espèce des premiers moments de la jeunesse de la conscience de soi, un premier moyen de sauver à l'augustinienne la factualité de l'expérience très ordinaire du conflit entre le monde, ma volonté et ma représentation, l'intérieur et l'extérieur. Mais ce n'est pas le seul. Conflit entre volonté, conflit entre désir, conflit entre désir et volonté, conflit entre volonté et désir. Les possibilités ne manquent pas. Une fois posée la différence dans le Christ entre volonté et mouvement de la chair, nombreuses sont les voies par lesquelles la nouveauté anthropologique s'insinue. Il suffit de prendre au sérieux les 10 mouvements, de leur donner un statut de protagoniste. Une théorie comme celle de Sergius, ou un argument, ou un problème, ou une distinction, ou un corpus de thèses liées à cette théorie, peuvent donner lieu à des percées anthropologiques nouvelles par l'allongement du questionnaire christologique ou plus simplement de la dimension théologique des problèmes anthropologiques. C'est le cas avec ce qu'on appelle l'imputabilité des mouvements de la chair. Ce qu'on a appelé aussi la théorie du péché de sensualité. C'est le cas donc avec l'imputabilité des mouvements de la chair, ce qu'on appelait la théorie du péché de sensualité, avec ce qui relève de ce complexe sur la longue durée. Qu'est-ce qui relève de ce complexe sur la longue durée? Eh bien, je veux parler de la théorie des pré-affects. Je veux parler de la théorie de l'advertance de raison et je veux parler de la théorie de la délectation morose. Pré-affect, advertance de raison, délectation morose. Ces trois domaines se développent à partir du noyau dur constitué par l'application du principe de non-contradiction et du principe de cohérence subjective du vouloir à la prière d'agonie du Christ et par le déploiement des éléments articulés dans le problème de Gethsémani. La question des mouvements de la chair, du conflit entre mouvement de la chair et volonté relevant de la nature de l'homme assumé, portée et occultée en partie par l'importance prise par la distinction entre vouloir gnomique et vouloir naturel en christologie, où elle n'a pas de domaine d'application, le Christ n'ayant pas de vouloir gnomique, eh bien, cela débouche anthropologiquement, là où cette distinction est valable, mais insuffisante, sur d'autres problèmes qui ouvrent de larges perspectives et des chemins nouveaux en anthropologie. De fait, chez l'homme, le conflit entre mouvement de la chair et volonté a une pertinence entière, une pertinence omnivore, qui va s'assimiler toute une série d'aliments conceptuels nouveaux, tout en voyant la réhabilitation, la réactivation, la reviviscence de théories essentiellement stoïciennes que le formatage aristotélicien avait neutralisé, assimilé, édulcoré ou éliminé, et tout cela. Nous allons le voir, j'insiste, en rejoignant l'inspiration théologique néo-testamentaire constante qui portait aussi bien l'analyse augustinienne de la relation entre vouloir et nouloir l'an dernier, la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Nous l'avons vu l'an dernier à l'œuvre sous la plume de Racine. Nous la retrouvons cette année, nous l'avons retrouvée cette année dans les sermons de Maître Eckhart. Au long de la Translatio Studiorum, l'image de l'homme se complique. L'histoire gagne en densité conceptuelle. Certains schèmes demeurent qui fonctionnent comme autant de centres attracteurs, configurateurs de mondes d'expérience et de pensée, dans la longue chaîne de transmission des textes, des commentaires, des débats et des discussions qu'ils suscitent. Le schème paulinien de l'homme intérieur et de l'homme extérieur est un de ceux-là. Le problème de Gethsémani réside dans le fait que l'on ne peut poser deux volontés dans le Christ, sans poser en lui une contrariété entre vouloir, hypothèse dont on ne peut s'accommoder qu'en posant en lui deux voulants. Mais c'est l'hérésie de Nestorius, ce qui oblige, pour éviter l'hérésie, à renoncer au diothélisme, aux deux volontés, et à embrasser le monothélisme avec Sergius. Être monothéliste, c'est dire qu'il n'y a dans le Christ qu'une volonté, la volonté divine, ce qui implique une exégèse particulière de la prière d'agonie, où la première partie de la prière est référée à un simple mouvement de la chair. En évoquant brièvement la dispute avec Pyrrhus et le concile de Milan, nous avons vu se mettre en place les éléments d'une sortie de la crise monothéliste. Une solution diothéliste, par subordination. Les deux volontés du Christ ne se contredisent pas. Sa volonté humaine est subordonnée à la divine. Le Christ veut de volonté humaine ce que veut la volonté divine, la passion comme sacrifice rédempteur, avec tout ce que la passion comporte en termes d'angoisse et de souffrance, dès le moment que le Christ est non seulement vrai Dieu, mais aussi vrai homme. C'est la solution de Maxime le Confesseur, qui tire toutes les conséquences du fait que le Verbe et l'homme assumé, la nature humaine du Christ, ont la même hypostase, l'hypostase du Verbe. Mais le feu couve sous les braises. Un complexe question-réponse est un organisme vivant. On a résolu le problème du conflit des volontés, du conflit de la volonté. Mais on n'a pas tout réglé du côté des mouvements de la chair. Leur potentiel anthropologique heuristique n'a pas été exploité, il est intact. Son exploitation donnera le trio auquel je faisais allusion il y a quelques instants, en évoquant les pré-affects, l'advertance de raison et la délectation morose. Nous n'avons pu approfondir aucun des trois thèmes durant le semestre. Nous n'avons pas même eu le loisir d'en aborder un seul de front. J'en dis quelques mots aujourd'hui pour donner une idée de la profondeur de champ archéologique d'un thème qui n'est limité qu'en apparence, la prière d'agonie. Pour Sergius, le refus de la coupe, l'angoisse, la crainte, la peur du Christ, l'imminence de la passion, sont fondées dans un mouvement de la chair qui ne peut pas être imputé, c'est-à-dire qualifié moralement, car se produisant, pour ainsi dire, à l'insu du plein gré du Christ. Il n'engage pas celui qui l'éprouve. Il ne l'engage pas. C'est le statut, volontaire ou involontaire, imputable ou non imputable, de ces mouvements de la chair qui est le plus fécond, historiquement, des problèmes anthropologiques posés par le problème de Gethsémani. C'est ce problème-là qui a permis la production de concepts, de distinctions, de problèmes même nouveaux, dont il a lesté la tradition philosophique dominante, l'aristotélisme. Les concepts sont comme des virus qui mutent, qui provoquent de nouveaux symptômes, bouleversent les équilibres habituels, perturbent les organismes, suscitent de nouvelles défenses, se recombinent avec d'autres pour exercer des effets imprévus. Il faudrait un modèle viral pour rendre compte de ce phénomène. Je laisse, faute de compétences, la question ouverte. Je note seulement que le problème du statut du motus carnalis, du mouvement de la chair, par rapport à la volonté, devient anthropologiquement productif une fois connecté au problème théologique du péché. Une fois donc ouvert le questionnaire de l'imputabilité et de la malice morale des mouvements de la chair. C'est par lui que partie du sujet d'attribution logique aristotélicien on finit par arriver au sujet d'imputation éthique de Locke puis de Kant. Nous avons vu l'an dernier qu'Aristote distinguait l'homme de l'animal par la perception du temps. L'animal est confiné au présent, l'homme voit l'avenir et en tient normalement compte. Les désirs, écrit Aristote, les désirs naissent en lutte les uns contre les autres, et cela se produit quand raison et appétit militent en sens contraire. C'est le propre des êtres qui ont la perception du temps. L'intellect nous pousse à résister en considération de l'avenir, l'appétit nous entraîne dans la seule vue de l'immédiat, car le plaisir du moment paraît être agréable absolument et bon absolument, du fait qu'on ne voit pas l'avenir. Ce qui fait muter le problème du statut des mouvements de la chair a trait au temps. J'ai rappelé cette année fugitivement la théorie buridanienne de l'antimème. Chez certains, l'appétit incliné n'attend ni le jugement, ni le conseil, ni le résultat de la délibération de l'intellect. Il met une inférence là où il faudrait un syllogisme. Il efface la prémisse modératrice et enchaîne directement du désir, j'ai envie de fumer, à l'action, je fume, sans passer par la case, fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. Ces gens font l'économie du conflit. D'autres ne la font pas. C'est pour eux que l'on a organisé la rencontre des préaffects, de l'advertance de raison et de la délectation morose. C'est chez eux que le concept de mouvement de la chair mute en péché de sensualité. Recordari volo transactas feditates meas et carnales corruptiones animae meae. Je veux me rappeler mon passé de souillure et de mon âme les charnelles corruptions, écrit Augustin au début du livre 2 des Confessions. C'est effectivement à cela qu'il faut s'intéresser, en tout cas archéologiquement. Pourquoi ? Parce que c'est là, dans le récit que les auctores en font, dans les problèmes que les théologiens en tirent et les solutions qu'ils prétendent y apporter, en liaison plus ou moins directe avec les décisions du magistère de l'Église, que s'affrontent sous nos yeux l'homme intérieur et l'homme extérieur. Parce que c'est par là que s'opère rien de moins que la conversion d'Augustin, récit fondateur, s'il en est, tel que le transmet l'épisode du jardin de Milan. Que dit en effet le premier chapitre du livre de l'apôtre sur lequel tombe le regard d'Augustin une fois entendu le « tolle, lege, tolle, lege, prends, et lis » chanté dans la maison voisine. Il ouvre le livre, Il tombe sur Romains 13-14. Plus de ripailles ni de beuveries, plus de luxure ni d'impudicité, plus de disputes ni de jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Passage dont on a vu la reprise chez Maître Eckhart. L'articulation du temps, des mouvements de la chair, du conflit des deux hommes, c'est chez Pierre Lombard, exposant la théorie augustinienne du péché, qu'on la trouve. Nouvelle preuve de l'importance des sentences dans l'histoire de la théologie médiévale, dans celle de la théologie et de la philosophie en général, mais aussi et d'abord pour nous, de l'éminence de son rôle dans la constitution et l'exploitation de l'archive archéologique du sujet de la passion. L'espèce humaine tout entière, ayant péché en Adam, c'est ce qu'on appelle le péché originel. La théorie médiévale du péché obéit à une loi de récapitulation qui prend la forme que lui donne Pierre Lombard sur les pas d'Augustin dans la distinction 24 du livre 2 des Sentences, quand il note que l'ordre et la progression de la tentation en chacun de nous, l'ordo peccandi in nobis, est celui qui a précédé chez nos parents Adam et Ève. L'ontogenèse du péché, bientôt du désir, en tout cas de ce désir qu'on dit charnel, récapitule la phylogenèse adamique. Suggestion, plaisir, pris ou non à y penser, consentement donné ou non au principe de sa réalisation. Suggestion, plaisir, consentement, serpent, Ève, Adam. La suggestion, ce sont les mouvements de la chair, ce que les médiévaux vont appeler les premiers mouvements. Ces premiers mouvements sont ce que les stoïciens appelaient pré-affects. Non pas la passion, mais la pré-passion, propateia, en latin propatio, antepatio, que la tradition alexandrine et romaine a laissé, je reprends ici l'heureuse formule de Damien Bocquet, osciller entre un élan spontané de la sensibilité favorisant l'émergence de la passion, mais agissant en amont de la rationalité, osciller entre cet élan spontané et, autre sens de préfecte, n'est-ce pas, premier signe de la passion elle-même, agissant dans l'âme rationnelle. Cette oscillation, cet équivoque, qu'est-ce que ça veut dire, préfecte, élan spontané ou premier signe de la passion? Cet équivoque, c'est tout le problème du statut des mouvements de la chair dans la Rezeptionsgeschichte, l'histoire de la réception du problème de Gethsémani. Et c'est le rôle du trio suggestio, delectatio, consensus que d'en donner une formulation rigoureuse. Mais c'est là que tout précipite. Où le théologien chrétien place-t-il le curseur de l'imputabilité? Là où commence le péché, me direz-vous. Mais justement, où commence le péché? À la suggestion? Au plaisir? Au consentement? Cela fait trois possibilités. Cela donne trois réponses. Rappelez-vous le principe de plénitude appliqué à la pensée. S'il y a une possibilité de penser quelque chose, eh bien, à un moment quelconque, c'est penser dans l'histoire. Mais l'hésitation aussi est une réponse. Comme l'ambiguïté, l'équivoque, l'incapacité, le refus de trancher. Suggestio ou delectatio? Delectatio ou consensus? Deux possibilités de plus, deux réponses de plus. Il est d'usage d'opposer Augustin et Grégoire le Grand. Le premier, Augustin, qui fait commencer le péché au consentement. Le second, Grégoire le Grand, qui le fait commencer dès la suggestion. En fait, les choses sont plus complexes. Surtout, le consentement lui-même a des degrés. C'est ce qui permet, d'ailleurs, cette gradation, de distinguer ce qu'on a appelé les péchés véniels des péchés mortels. Pierre Lombard distingue l'appétit sensitif, le serpent, la raison inférieure, la femme, Ève, mais aussi la femme dans l'âme, et la raison supérieure, l'homme, mais aussi l'homme dans l'âme. Tous trois sont sujets d'imputation. La volonté ferme, virile, conçue par la raison supérieure d'accomplir l'acte suggéré, source de plaisir défendu, est faute grave, péché mortel. Le consentement féminin au plaisir, où se laisse aller la raison inférieure, est faute grave s'il se prolonge et tourne à la complaisance. Mais il n'est que faute légère, vénielle, s'il est vite réprimé. Quant au mouvement désordonné vers le plaisir, l'illecebra peccati, la séduction du péché avant toute intervention de la raison, ce ne peut être faute grave puisque la raison n'y prend pas plaisir. Quia ratio tunc non delectatur. Elle n'en est pas moins, si légère soit-elle, faute morale. Ce mouvement sensuel, c'est le préaffect, la propatio. Ce sont les premiers mouvements, ce sont les mouvements de la chair de Sergius de Constantinople. Pourquoi imputer à charge les premiers mouvements à l'homme? Contrairement à ce que disait par exemple un païen comme Sénèque, distinguant le premier choc de l'émotion, auquel on ne peut rien, et la passion elle-même. Pourquoi les lui imputer à l'homme, ses premiers mouvements, alors qu'on ne les impute pas aux autres animaux? Réponse, parce que lui seul est doué de raison, donc capable de réprimer ses désordres. Parce que, ne riez pas, s'il ne peut les arrêter tous à la fois, il peut arrêter chaque mouvement désordonné pris isolément, ce qui suffit pour que tous lui soient imputables. L'angoisse de Gethsémani était-elle imputable? La peur devant le supplice de la croix l'était-elle? Oui, si tout motus sensualis est imputable. Non, ou pas entièrement, si l'on distingue deux sortes de mouvements de la chair, deux moments dans les dix mouvements, si l'on opère ce qu'on a pu appeler une scission des préaffects. Permettant à la fois d'attribuer et de ne pas attribuer à la propatio l'imputabilité morale. Cette distinction qui est attestée dès les années 1130 passe entre le motus primo primitivus, le mouvement premier primaire, à savoir la titillation de la chair, hein, et qui correspond donc au premier impact de cette titillation, hein, et le motus secundo primitivus, mouvement premier secondaire, où l'âme prend plaisir à l'idée, la fameuse cogitatio, sans consentir à l'acte. Scission du préaffect. Duplex sensualitas, double sensualité. Duplex appetitus, double appétit. Distinction entre appétit naturel et appétit sensitif. Les maîtres rivalisent au long des années en ingéniosité pour ménager une sphère de non-imputabilité à la ci-devant propatheia. Mais son domaine tend à se réduire et à la fin, comme les Allemands au football, c'est Pierre Lombard qui gagne. Il y a un péché de sensualité. L'appétit sensible est sujet de vertu. C'est ici que s'ouvre le chapitre de l'advertance de raison et celui de la délectation morose. Deux purs produits de théologie qui n'ont pas peu contribué à l'essor de l'anthropologie philosophique et de la psychologie moderne. La théologie a ses objets propres. Dans sa réflexion, qui fait qu'un acte peut être considéré comme volontaire, l'éthique philosophique, la théorie philosophique de la volonté et de l'action, fait une large place à l'ignorance. Dans l'Éthique à Nicomaque, livre 3, chapitre 2, Aristote disserte de la différence entre agir par ignorance et accomplir un acte dans l'ignorance. La théologie ajoute, les théologiens ajoutent à l'ignorance ce qu'ils appellent l'advertance. Et plus précisément, les théologiens qui s'occupent d'imputation morale ajoutent l'advertence, advertentia rationis, définie comme la pleine conscience de la malignité de l'acte. Le terme et le thème advertence de la raison ont fait grand bruit. C'est l'une des pièces du dossier instruit par le grand Arnaud contre les jésuites dans sa cinquième dénonciation du philosophisme. Je cite, « Cette nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur morale. » Polémiquant contre le traité des péchés dicté en 1677 par le père Audry, un des philosophistes de la Compagnie de Jésus, Arnaud, qui s'attribue d'ailleurs l'invention des termes français philosophisme, philosophiste et advertence, présente les thèses dudit père sur les conditions du péché mortel. Donc voici les thèses du père Audry, jésuite. Hein. Afin qu'un péché soit mortel, il faut qu'il soit commis avec une pleine liberté et advertence de la raison à l'aversion que Dieu en a et à la défense grière et rigoureuse que Dieu en a faite. Définition. Dans la réponse à la question posée, hein, quelles sont les conditions du péché mortel, il précise sa thèse de la manière suivante. Je réponds que pour pécher mortellement, il est nécessaire d'avoir une connaissance pleine et parfaite de la malice du péché comme mortel. Et que pour en commettre un véniel, il suffit d'avoir une connaissance demi-pleine et imparfaite, soit qu'on le considère comme mortel ou qu'on le considère comme véniel. Alors, j'adore cette connaissance demi-pleine et imparfaite. Bon, il faut un jésuite pour inventer ça. Respect, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, mais en tout cas, ici, vous avez la notion d'advertence de la raison. Tout cela est discuté, cité, et âprement discuté dans ce texte qui a un titre extraordinaire quand même, la cinquième dénonciation du philosophisme. La nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur morale. La délectation morose est-elle aussi une invention de théologiens? Elle eût mérité sans aucun doute une séance. Cela n'a pas été possible. Quelques mots à défaut pour préciser qu'il ne s'agit ni de dépression nerveuse, ni de procrastination. La délectatio morosa n'est pas l'oblomovisme ou l'oblomovite, le mot créé à partir du personnage de Gontcharov, n'est-ce pas? Mais même si elle a trait au temps, à la mora temporis latine, qui signifie mora temporis, retard, arrêt, pause dans le discours, délai. Cette mora, cette mort en français, M-O-R-E, que vous entendez évidemment dans moratoire, hein, et dans le déverbal demeure, qui existait au Moyen-Âge sous la forme de mur, hein, au sens de laps de temps, mais aussi de retard, n'est-ce pas ? Ce déverbal qui est encore actif dans la locution proverbiale, il y a péril en la demeure, n'est-ce pas ? Au sens de il y aurait danger à ne rien faire, n'est-ce pas ? Ou dans l'expression juridique mettre en demeure qui signifie mettre dans une situation où l'on sera tenu pour responsable de son retard. La délectation morose va de pair avec l'advertance et ses nombreuses interprétations, mais aussi avec le dispositif des mouvements de la chair et la distinction entre mouvement premier primaire et mouvement premier secondaire. On a vu que les scolastiques attribuaient à l'homme le pouvoir remarquable d'éviter tous les mouvements premiers à condition de les prendre un à un. Certains présentent la chose autrement, distinguant trois sortes de pouvoir ou puissance, physique, logique et morale. Ils soutiennent que l'homme peut éviter tous les péchés véniels de puissance physique ou logique, voire seulement logique, in abstracto, mais pas de puissance morale, in concreto. Concrètement, en effet, disent-ils, même l'homme le plus avancé en perfection ne peut aller plus de quelques heures sans faute. L'amour dure 3 ans, titrait un roman récent. Pour le dominicain de Salamanque, Pedro de Sotomayor, mort en 1564, l'innocence dure 4 heures, grand max. Potest sanctus vir, vitare omnia peccata venialia, perduas aut quator horas, ut in multis de facto contingit, non tamen per longum tempus. Ces textes magnifiques sont cités par Roger Couture dans son étude sur l'imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité de saint Thomas au Salmaticenses, paru dans les Analecta Gregoriana en 1962. Voilà le genre de livre qu'il faudrait lire, n'est-ce pas, et qu'évidemment personne ne lit parce qu'on préfère lire autre chose. Je ne donnerai pas de titre. S'attarder dans la délectatio, c'est péché. Voilà le point décisif. C'est l'antipode, en apparence, de l'antimème buridanien. Prenons le même cas que celui évoqué l'an dernier, le 31 mars 2015, avec le héros allégué de la Tour de Nesle, Buridan, l'adultère. Prenons un contemporain de Buridan, Nicolas de Lyre, franciscain, l'autre grand auteur d'apostille, avec le dominicain bibliste et théologien Hugues de Saint-Cher, évoqué la semaine dernière. Dans sa postille sur la Bible, composée entre 1322 et 1330, Nicolas de Lyre commente Matthieu 5, 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Pour Nicolas de Lyre, ce n'est pas le simple coup d'œil que réprouve le Christ, mais la concupiscence interne qui l'accompagne. Nicolas analyse cette concupiscence en 3 étapes. Mouvement indélibéré, non délibéré, de concupiscence dans l'appétit sensitif qu'on appelle mouvement de sensualité causé par la vue. Deuxièmement, rétention de la concupiscence après la perception, sans consentement à l'action, autrement dit, au rapport sexuel. Troisièmement, consentement à l'action, c'est-à-dire au rapport sexuel. Voici, comment se présentent les apostilles, n'est-ce pas ? Vous avez au centre le texte, donc, « Ego autem dico vobis, quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum meam », etc. Vous avez ce petit signe que vous retrouvez en cherchant bien, le petit A ici, qui vous donne la partie de glose, de commentaire, qui s'accroche à cela. Donc voilà l'apostille A sur ce morceau du Nouveau Testament. Ici, B, si vous voulez le commentaire de Quod si oculus, etc., vous allez le chercher ici. Quod si oculus, etc. Alors, je vous ai mis le texte que vous trouvez donc ici. Hein, le voilà là. Dans la phase 1, il n'y a pas de faute, car l'activité passionnelle rappelez-vous que la passion est une action psychique, hein, se déroule dans les facultés sensitives seulement. Et ces mouvements de sensualité ne sont pas au pouvoir de l'homme. Il y a faute vénielle s'il y a rétention, ce qu'on appelle délectation morose. Il y a péché mortel si la délectation est suivie de consentement à l'action avant toute action ou commencement d'action. Et dès que le plaisir est retenu, tant soit peu, il y a péché. Car il est au pouvoir de l'homme de ne pas le retenir, ce plaisir. Comment ? Ce n'est pas dit, mais c'est possible. À l'appui de cette affirmation, Nicolas de Lyre invoque un texte d'Augustin dont les scolastiques de la Renaissance, notamment Basquès, feront grand cas. Il n'est pas en notre pouvoir de choisir quelle chose vue nous envahisse, mais il est en notre pouvoir de les rejeter ou de les accepter. En fait, il s'agit d'un adage magistral bien attesté au Moyen Âge, dont l'original est dans le De Libero Arbitrio, livre 3, chapitre 74. Il y a, je vous en donne deux traductions, « Mais la volonté n'est portée à agir que par quelques représentations, l'accepter ou la repousser est en notre puissance, mais le fait d'être touché par elle ne l'est pas. » C'est la traduction de la Pléiade. La Bibliothèque augustinienne. « Mais la volonté n'est sollicitée à un acte de déterminé que par un certain objet connu. » Et si chacun a le pouvoir de choisir ce qu'il accepte ou rejette, il ne l'a pas de déterminer l'objet dont la vue le frappera. Bon, inutile de dire qu'il n'y a pas dans le texte augustin d'objet, etc. En tout cas, dès qu'il y a conscience, certains disent advertance du mouvement de la chair, la volonté doit résister. Alors, advertance. J'insiste là-dessus, il y a deux sens d'advertance. Vous avez l'advertance de raison, dont j'ai parlé jusqu'ici, et il y a l'advertance tout court. L'advertance, à la prendre en général, dit un auteur de théologie morale en 1829, l'advertance, à la prendre en général, est l'attention qu'on fait à une chose. Et l'inadvertance, un défaut d'attention et de vue actuelle. Dans la question présente, c'est-à-dire celle de l'imputabilité des premiers mouvements de la chair, il ne s'agit pas seulement de l'attention qu'on fait à une action, en la faisant avec connaissance et avec délibération. Il ne s'agit pas de se rendre compte qu'on est en train de faire ceci ou cela. Il s'agit principalement de cette attention, de cette advertance qui a pour objet la qualité morale de l'action. Sa bonté ou sa malice. Ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. On peut agir d'une manière très réfléchie, sans penser si ce qu'on fait est un bien ou un mal. Vous pouvez distinguer les maximes de la prudence et le devoir chez Kant, enfin bon, on trouverait bien des variations sur cela. Mais ce qui compte, c'est la perception de la qualité morale de l'action. Sans perception de la qualité morale de l'action, sans cette advertence de raison, n'est-ce pas, vous n'avez pas ce que, de quoi imputer quoi que ce soit à charge à quelqu'un. La simple conscience de faire ce qu'on est en train de faire, et même de délibérer, de réfléchir, de dire comment je pourrais faire ça, ou ne pas le faire, ne suffit pas. Donc, advertence tout court et advertence de raison égale perception de la malignité d'un acte. Donc, dès qu'il y a conscience, certains disent advertence du mouvement. Et alors là, il faut savoir de quoi on parle, de quelle advertence. Et évidemment, si on a le choix, ça veut dire que des gens vont soutenir l'une ou l'autre thèse. Donc vous aurez une thèse maximaliste, une thèse minimaliste. Dès qu'il y a conscience, certains disent advertance du mouvement de la chair, la volonté doit résister. Toute hésitation, tout atermoiement, même non suivi d'un consentement, constitue une faute au moins vénielle de delectatio morosa. Ce n'est donc pas le contraire de l'antimème buridanien, finalement, la délectation morose, car en fait, il suffit toujours d'un instant. Ce que nous avions appelé l'an dernier l'instant de la décision, ça n'a pas besoin de durer. Une rétention d'un instant suffit pour pécher. La délectation morose n'est pas ainsi appelé à raison de sa durée ex mora temporis. Le consentement qui en fait le péché peut être l'affaire d'un instant. Parce que la volonté étant une faculté spirituelle n'a pas besoin de plus de temps pour connaître l'objet qu'elle considère, s'y plaire ou s'y refuser. Mais quelque courte qu'ait été cette pensée, elle l'a dû rejeter dès qu'elle s'en est aperçue. Un flash obscène doit être écarté immédiatement. Un instant suffit à pécher. On est toujours en demeure. Ouais, c'est extraordinaire quand même. Vous êtes toujours en retard. In mora, par rapport à l'obligation de la rejeter, si elle y est trop longtemps arrêtée. Et un moment seul est toujours de trop. Donc vous voyez, un instant suffit. Le temps ne fait rien à l'affaire. Ne pas perdre un instant pour résister. Le premier accro coûte 200 francs, disait Radio Londres. Le premier instant passé l'irruption du mouvement premier primaire, c'est déjà la délectation morose. Voilà de quoi équilibrer du côté de la répression le raccourci antimématique de la satisfaction du désir chez Buridan. L'un dit « ne perds pas un instant pour jouir ». L'autre répond « ne perds pas un instant pour résister ». C'est le même geste, mais il ne prend pas la même signification ni la même portée. Il ne reste plus qu'un instant pour finir cette année, je vais donc le mettre à profit, m'y attarder avec une complaisance coupable, en vous donnant, histoire de prolonger encore la culpabilité du pécheur dans l'annonce du péché, je vous donne rendez-vous les 18, 19 et 20 mai pour le colloque que nous organisons ici même, dans cette salle, Histoire et historien des idées, figure, méthode, problème, c'est une sorte de concile œcuménique qui rassemblera Mme Tiercelin, ma collègue, M. Angenot, M. Michel, Mme Lombardo, M. Charac, M. Charac-Neff Angèle, Mme Perrine Simon-Naoum, M. Alexandre de Vitry, M. Antoine Compagnon, M. Métayer, Renan de Calan, parisien, Boucheron, notre collègue. Patrick Boucheron, que tout le monde connaît, historien, Kevin Mulligan, de l'Université de Genève, David Simonetta et moi-même. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'ici et à l'année prochaine.